Radio Kapi. Le journal Lévin Mwinga.
Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Élection en RDC et Bouteli crie à une corruption à tous les niveaux du système électoral. Cet institut de recherche le fait savoir dans un rapport intitulé « Corruption électorale sans frontières en RDC, des leçons à tirer pour l'avenir ». Un document publié hier mardi à Kinshasa. Nous allons décortiquer ce rapport dans un instant. Dans ce journal, vous suivrez aussi le bilan des opérations de bouclage à Goma. Une soixantaine de militaires présumés FARDC, une vingtaine d'éléments Wazalendo ainsi que des présumés criminels ont été présentés hier mardi au stade de l'unité de cette ville du Nord Kivu par les services de sécurité du M23. Notre invité, le professeur Albert Maloukissa, directeur du pilier gouvernance à l'Institut de recherche Bouteli. Il va expliquer son rapport sur la corruption électorale en RDC, publié hier mardi dans la capitale. Encore une fois, bonjour, mais veuillez d'abord nous excuser pour ces quelques désagréments techniques liés à la pluie qui s'abat sur Kinshasa ce matin. Élection en RDC, l'Institut de recherche Bouteli crie à une corruption à tous les niveaux du système électoral. Il le fait savoir dans un rapport intitulé « Corruption électorale sans frontières en RDC, des leçons à tirer pour l'avenir ». Un document publié hier mardi à Kinshasa et qui relève que ces pratiques de corruption aggravent la crise de légitimité et le manque de redevabilité des institutions politiques. Ce rapport cite par exemple le processus électoral de 2023 qui renseigne le rapport. S'est caractérisé par la corruption sous diverses formes, détournement des dispositifs électroniques de vote, achat des votes, des voix, manipulation des résultats au sein de la Commission électorale nationale indépendante, à la Cour constitutionnelle et des cours d'appel. Grâce à Mzati pour plus de détails.
Cette étude souligne que depuis 2006, les élections organisées pour améliorer la gouvernance en RDC donnent systématiquement lieu à des contestations, notamment en raison de la corruption. Malgré les recours à la technologie et l'augmentation significative du budget électoral, passé de 540 millions de dollars en 2006 à plus d'un milliard de dollars américains en 2023, la corruption et le manque de transparence dans lesquels les candidats et d'autres parties prenantes aux processus électoraux se livrent dénaturent les résultats des élections. Au lieu d'incarner un exercice de libre choix citoyen, les élections en RDC s'apparentent de plus en plus à un marché de transactions illicites dominé par des modes de corruption centralisés et décentralisés, indique le rapport. Selon la même source, la corruption électorale en RDC ne relève pas d'un dysfonctionnement ponctuel, mais constitue un système structuré, enraciné dans les pratiques, les institutions et les rapports des pouvoirs. L'élection n'est plus un moment de légitimation démocratique, mais un moyen d'accès aux ressources, aux privilèges et à l'impunité, ajoute le rapport. En prévision des prochaines échéances électorales, Ebouteli recommande notamment la restructuration de la CENI pour garantir son indépendance, la révision de la loi électorale, l'indépendance de la justice électorale et l'audit financier indépendant de la CENI.
Et puis, rebondissement de l'affaire Boukang-Alonso avec le verdict très attendu aujourd'hui, mercredi 14 mai à Kinshasa. En tout cas, la Cour constitutionnelle va rendre son verdict dans ce procès aujourd'hui. Pour rappel, le procureur général près la Cour poursuit l'ancien Premier ministre et actuellement député national Augustin Matata Ponyo, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Grobler, patron de la firme sud-africaine Africom, pour détournement présumé de plus de 285 millions de dollars américains dans la débâcle du parc agro-industriel de Boukang-Alonso. Accusé principal, le député Matata Ponyo fait l'objet d'une grande controverse et contradiction sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles entre l'Assemblée nationale et le président de la Cour constitutionnelle concernant la régularité de ses poursuites. Comment en est-on arrivé là? Le condensé de ce long procès avec vous, Jeff Ngoy.
Trois moments forts marquent ce feuilleton. D'abord, le 25 octobre 2021, s'ouvre le procès devant la Cour constitutionnelle à la suite d'un rapport publié le 18 novembre 2020 par l'Inspection générale des finances. L'IGF affirme que le Trésor public a eu à débloquer 285 millions de dollars pour le futur parc agro-industriel de Boukang-Alonso, resté au goût d'inachevé. La Cour ne juge pas le sénateur sur le fond, mais statue sur la forme. Le 15 novembre, la Cour se déclare incompétente de juger un ancien Premier ministre et motive son arrêt que le juge naturel du sénateur et la cour de cassation. Celle-ci ouvre ensuite le procès pour les mêmes faits le 13 juin 2022. Décline sa compétence après avoir saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 164 de la Constitution. Enfin candidat président de la République, Matata bénéficie d'une pause pour battre campagne lors des élections de 2023. Mais la Cour constitutionnelle promet de relancer l'affaire après les élections. Jugé par défaut faute de comparaître, le ministère public requiert 20 ans de prison contre lui le 23 avril.
Sachez aussi que l'équipe du Fonds monétaire international est parvenue à un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo sur la première revue au titre de la facilité élargie de crédit, FEC en sigle, dans un communiqué de presse rendu public hier mardi, marquant la fin de leur mission. Les équipes de services du FMI saluent le fait que l'économie congolaise fait preuve de résilience avec une croissance économique atteignant 6,5% en 2024 et qui devrait rester supérieure à 5% en 2025, et ce malgré un contexte sécuritaire tendu dans l'est du pays qui pèse lourdement sur le budget de l'État et ayant des conséquences humanitaires désastreuses, reconnaît le FMI qui encourage la RDC à lutter contre la fraude fiscale et la corruption, mais aussi d'améliorer la transparence, y compris dans le secteur extractif. Michel Kifindangoy.
Au terme de leur mission à Kinshasa, les services du FMI reconnaissent la croissance de l'économie congolaise qui a atteint un solide de 6,5% en 2024 et devrait connaître une légère régression pour se maintenir au-dessus de 5% cette année, notamment grâce au dynamisme du secteur minier. Cependant, le FMI souligne que l'escalade des conflits a entraîné des dépenses publiques imprévues, notamment pour la sécurité, ce qui justifie la légère régression. Pour maintenir les objectifs du programme lié à l'accord des facilités élargies des crédits FEC, recalibré face à cette situation, le FMI conseille au gouvernement de prendre des mesures crédibles. Il s'agit notamment d'accroître la mobilisation des recettes de l'État, de rationaliser les dépenses non prioritaires et d'accélérer les réformes. Cet accord doit encore être approuvé par la direction générale et le conseil d'administration du FMI d'ici fin juin. Enfin, le FMI encourage les autorités à avancer sur les réformes liées à la facilité des résiliences et des durabilités, afin de renforcer la capacité du pays face aux chocs climatiques.
Suite des opérations de bouclage à Goma, une soixantaine de militaires présumés FRDC, une vingtaine d'éléments Wazalendo ainsi que des présumés criminels ont été présentés hier mardi dans la matinée par les services de sécurité du M23. Cette cérémonie s'est déroulée au stade de l'unité de cette ville du Nord Kivu. Ces personnes auraient été interpellées au cours de divers bouclages effectués dans la partie nord de la ville, notamment Akilinité et Turunga. Ces vastes opérations de bouclage menées par des militaires armés suscitent des réactions et du mécontentement au sein de la population locale. Plus de précisions avec vous, Greta Lulendo.
Plusieurs autres personnes appréhendées tôt ce mardi ont été regroupées au stade Don Bosco pour certains avant de rejoindre les autres groupes au stade de l'Unité. Selon nos sources, certains militaires en âge avancé mais aussi des mineurs ont été retirés du groupe et ont regagné leur domicile, affirment des témoins, notamment des journalistes locaux présents au stade de l'Unité. Deux militaires plus âgés, déclarés originaires de l'Équateur et du Congo central, auraient été relâchés et autorisés à regagner leur province, indiquent nos sources. En outre, une cinquantaine de jeunes présentés par le M23 comme des volontaires, auraient décidé de rejoindre l'armée de l'AFC M23. Parmi eux, quelques mineurs filles et garçons auraient été séparés et renvoyés chez eux, ont-ils expliqué au public. Dans le lot, on parle aussi de 16 présumés criminels et quelques personnes relâchées. Par ailleurs, nous apprenons d'autres sources que plusieurs groupes de personnes arrêtées samedi et dimanche sont embarquées dans des camions et amenées vers le centre de Rumangabo. En outre, les 182 ressortissants rwandais interpellés lundi auraient déjà été remis au HCR pour être rapatriés dans leur pays, indiquent nos sources. Cette situation préoccupe grandement les parents qui voient leurs fils assimilés et embarqués dans ces groupes. Personne ne souhaite s'exprimer par crainte de représailles de la part des membres du M23, témoignent de nombreux habitants.
Sécurité encore, attaque armée fréquente sur l'axe Kalemie-Kabimba au Tanganyika. Le gouverneur de province rassure les investisseurs. Christian Kitungwa indique que des mesures efficaces seront prises pour leur sécurité. Le gouverneur a fait cette déclaration lors de la descente des membres du Conseil provincial de sécurité du Tanganyika sur l'axe Kalemie-Kabimba. Il y a quelques jours, ces hommes sont allés visiter ce lieu où s'opèrent souvent des attaques armées perpétrées par des coupeurs de route et ces attaques ciblent souvent des ressortissants chinois. Autre nouvelle, prévention et résolution des conflits en Ituri, les leaders des chefferies de Walese-Vonkutu et de Basili décident de s'impliquer activement. C'est l'essentiel des mesures prises à l'issue d'une série d'ateliers de 6 jours organisés sur la gouvernance sécuritaire participative organisée par la MONUSCO et qui se sont clôturés samedi dernier à Komanda. Cette démarche de la MONUSCO vise également à renforcer la collaboration entre la jeunesse de cette entité et les autorités locales pour le rétablissement d'une paix durable. Isaac Remoyope.
Environ 90 représentants des jeunes du territoire d'Irumu ont appris des notions sur la gouvernance sécuritaire participative, la résolution 2250 de l'ONU, l'organisation et le fonctionnement d'un comité local de sécurité. Ils ont également appris comment identifier les défis sécuritaires et élaborer des solutions adaptées. C'est dans le but d'impliquer tous les jeunes qui sont des acteurs clés dans la société pour la construction de la paix en Ituri où l'insécurité persiste depuis de nombreuses années. Les participants ont résolu de jouer pleinement leur rôle. Le président du conseil territorial de la jeunesse, Jacques Anayei.
La jeunesse du territoire d'Irum se voit déjà renforcée de sa capacité. La confiance des jeunes à leur capacité à contribuer aux décisions sur des questions sécuritaires est aussi renforcée.
Les autorités locales ont exhorté les jeunes à un changement de comportement pour leur participation active au processus de paix en Ituri et aussi à renforcer la collaboration avec les services de sécurité et les autorités à tous les échelons. Mawa Nzorunzi, inspecteur général de la territoriale adjoint.
Ce que nous visons, c'est que le comportement change et que le mariage civilo-militaire sera de plus en plus renforcé.
Pour rappel, beaucoup de jeunes ont intégré les différents groupes armés, parfois à tendance communautaire, qui déstabilisent la province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Après le maire de la ville de Butembo, nous l'avons dit il y a quelques jours, c'est au tour de la société civile Force Vive d'appeler la population à ne pas entraver la libre circulation des véhicules de la MONUSCO et du CICR, Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Ainsi, Matesa Nahae, son président, demande à la population de ne pas se fier aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et qui prétendent que ces convois transportent des personnes ou objets suspects. Matesa Nané est au téléphone de Guylaine Kassassia.
La coordination urbaine, la société civile, appelle à toute la population de la ville de Butembo de bien vouloir laisser libre le passage des véhicules de CICR et MONUSCO qui ont sauvé de justesse nos compatriotes qui étaient dans les camps de la MONUSCO à ville de Goma. Et donc CICR a pris l'initiative de déplacer ce militaire et policier et leur dépendant de Goma jusqu'à Beni pour Kinshasa. Et donc nous appelons à la population de s'apaiser et donc communiquons-nous mutuellement pour que ce service qu'ils nous ont rendu ne soit pas rendu à néant. Et nous vous encourageons, restons vigilants tous.
Santé, c'est parti depuis hier mardi à Kinshasa avec la campagne de chirurgie viscérale gratuite. Cette campagne qui se tient à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe en partenariat avec la fondation Vinmart se déroule en 2 étapes. Une phase initiale des consultations médicales qui va du 13 au 23 mai. La 2e étape est réservée aux interventions chirurgicales. Elle ira du 27 mai au 24 juin. Greta Lulendo était à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et nous en dit plus.
Dans la cour de l'hôpital de Kalembelembe, de nombreux parents accompagnant leurs enfants attendent avec impatience leur tour pour les consultations. Le docteur Noël Dodo, chef de service de chirurgie pédiatrique, explique les différentes pathologies qui seront prises en charge durant cette campagne.
Nous avons des enfants qui naissent sans anus. Nous avons Hirschsprung. Ça se caractérise par des constipations des enfants. Nous avons la hernie. Quand ils voient la partie génitale de l'enfant qui gonfle au niveau des testicules ou bien au niveau du pubis chez les filles.
Un père
de famille d'une cinquantaine d'années raconte l'histoire de sa fille de 11 mois dont l'état de santé nécessite une intervention chirurgicale.
Notre enfant a un problème anorectal. Elle est née sans anus. On avait fait déjà la première intervention, la colostomie. On a fait sortir les intestins et puis elle faisait des selles par ces voies-là. Puis maintenant, nous sommes venus pour qu'on puisse rétablir.
Chris, 9 ans, révolu, partage également son témoignage sur la maladie qui l'affecte.
On a le problème des testicules. On a dit que les testicules, ce n'est pas à la bourse. On a dit qu'on doit nous faire la consultation avant de nous opérer.
Cette campagne permettra à son enfant âgé de 1 mois à 16 ans de bénéficier gratuitement des soins chirurgicaux grâce au financement de la fondation Vinmart.
Actualité internationale.
Au Mali, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont officiellement dissous. Cela en vertu d'un décret présidentiel adopté hier mardi 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire. L'annonce a été faite sur la télévision d'État ORTM par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral.
L'invité.
Notre invité, le professeur Albert Maloukissa, directeur du pilier gouvernance à l'Institut de recherche Ebouteli. Il explique le rapport d'une étude menée par sa structure sur la corruption électorale en RDC, publiée hier mardi à Kinshasa. Il s'entretient ici avec Grâce Hamzati. Suivez.
Professeur Albert Maloukissa Jolinan, bonjour.
Bonjour.
Quelle méthode avez-vous utilisée pour parvenir à ces résultats selon lesquels il y a eu escalade de la corruption électorale en RDC depuis 2006 jusqu'en 2023?
Ben, d'abord, les observations, parce que Ebouteli a pu déployer des chercheurs pendant les élections, pendant la campagne électorale. Et ensuite, nous avons fait des entretiens avec les acteurs clés du processus électoral, c'est-à-dire la CENI, les hauts cadres de la CENI, les agents temporaires de la CENI, les juges de la Cour constitutionnelle, les commandants de la police, mais aussi les agents.
Dans votre rapport, vous dites que malgré l'augmentation significative du budget électoral, passé de 540 millions de dollars en 2006 à plus d'un milliard de dollars américains en 2023, il y a toujours la corruption et le manque de transparence. Quelle comparaison faites-vous de manière claire entre les différents processus électoraux en RDC?
Le processus électoral qui est considéré comme ayant laissé plus ou moins de bonnes marques, c'est celui de 2006. Hein. Et ça peut se comprendre parce que à cette époque-là, les composantes, les anciens belligérants se regardaient mutuellement. Même s'il y avait une corruption, c'était plus ou moins modéré parce que il y avait des mécanismes d'autocontrôle, il y avait des contrepoids. Mais à partir de 2011, la corruption électorale a pris une ampleur considérable. Ces rapports révèlent au grand jour ce que nous avons baptisé de corruption électorale sans frontières, c'est-à-dire au-delà même de la CENI, c'est toutes les parties prenantes du processus électoral qui ont une lourde responsabilité. Quand bien même on a l'habitude de se focaliser sur la CENI, mais nous pensons qu'il faudra aller au-delà de cette considération.
Et de manière globale, quelles sont les formes de corruption qui caractérise les élections en RDC?
D'abord, vous avez ce que tout le monde a constaté, des faveurs accordées à certains candidats qui ont pu obtenir des machines à voter, le dispositif électoral de vote. Ça a été privatisé. Mais vous avez aussi une forme de tricherie avec les bureaux de vote qui existent dans les écoles des candidats. On a vu ça avec les élections des gouverneurs, des sénateurs. C'est l'argent cash qui a été donné. Mais il y a aussi un sérieux problème avec le prélèvement des empreintes. Dans certains bureaux de vote, il y a des électeurs qui votent plusieurs fois.
Et quels sont les facteurs qui expliquent ce que vous considérez comme montée en puissance de la corruption électorale au lieu plutôt du changement positif?
D'abord, le contexte de la pauvreté. D'une manière générale, ça favorise la tricherie. Qui sont dans les bureaux de vote? C'est des enseignants qui ont un très bas niveau de revenus. C'est le manque d'équilibre sur le plan politique parce que vous avez des acteurs qui ont entre leurs mains le contrôle des institutions clés des élections.
Qu'est-ce que vous préconisez pour que les prochaines élections RDC soient réellement un exercice de libre choix citoyen et épargné de toutes sortes de scandales de corruption?
Ça sera difficile d'éliminer totalement la corruption, mais c'est possible de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de pouvoir limiter ces dégâts. Nous préconisons que les élections des gouverneurs, des sénateurs, nous privilégions les scrutins directs. Nous ne souhaitons pas que ça continue avec ces élections qui se font au niveau des assemblées provinciales où il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de pressions politiques et beaucoup de corruption. Nous pensons qu'il faut une restructuration profondeur de la CENI, mais aussi, vous avez observé avec nous, avec le Congolais, dans leur ensemble, qu'il se pose toujours un problème dans les choix du président de la CENI, qui retarde même les élections. Parce que chaque camp voudrait bien avoir un président à sa sorte. Les confessions religieuses aussi ont été impactées par la corruption. À ce niveau-là, nous pensons que c'est mieux que cette question soit traitée par les partis politiques, mais qu'il y ait un cabinet indépendant qui peut sélectionner les présidents de la CENI sur base des critères objectivement définis. Mais aussi qu'il y ait un renforcement du cadre juridique pour pénaliser la corruption électorale. Par exemple, la remise des cadeaux. Les cadeaux, c'est aussi une forme quand même de corruption.
Professeur Albert Maloukissa, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, c'est la fin de ce journal qui a été assez long suite à quelques désagréments techniques liés à la pluie qui s'abat sur Kinshasa. Veuillez donc nous en excuser, mais tout est rétabli dans l'ordre et le programme continue bel et bien sur Radio Kapi. Merci à Jean-Claude Siala qui est à la technique. Merci également à Pelé Kipela Mondo et Jude Bilanda qui ont préparé ce journal. Bonne journée à toutes et à tous.